Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Une nouvelle cerise sur le gâteau aujourd'hui. On la retrouvera de façon mensuelle. Pierre Gropot est avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre.
Merci Caroline, je suis ravie d'être là.
Et nous aussi, du magazine Vanity Fair. Le prochain numéro de Vanity Fair dont nous sommes partenaires chaque mois, ça sera d'ici une quinzaine de jours, début février,
avec absolument.
Un spécial food en plus.
Un spécial food et les 20 chefs qui, à notre avis, vont faire la scène gastronomique hexagonale de cette année.
Mais c'est pas de cela que vous allez nous parler tout à l'heure pour la cerise sur le gâteau, mais bien de quoi ?
Eh bien, on va aborder le comeback de la graine à l'ancienne.
Bon, dis donc, à 12h25 sur France Culture, rendez-vous donc avec Pierre Gropot. Matteo Caranta, que je suis heureuse de vous voir. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline, le plaisir
la
de partager.
La madeleine du jour.
Oui, la madeleine du jour, c'est le réalisateur guatémaltèque Jairo Bustamante qui a sorti son film La Llorona.
Et dont on parle beaucoup, fantastique film, m'avez-vous dit. À 12h15, on vous retrouve donc pour la madeleine. Et pour notre plat du jour, zoom sur le prolétaire des légumineuses, arrondi, déprimé et aplati sur les côtés, dont le grain présente une sorte de bec formé par le relief de la radicelle et dont l'aspect d'ensemble est celui d'une tête de bélier flanquée de cornes enroulées. Le poète Théophile Gautier disait de lui que c'est un petit pois qui nourrit l'ambition d'être un haricot et qui, heureusement, y parvient. Selon les langues, on l'appelle Krios, Ariès, Chenuka, Herbac ou même petit cul dans le Languedoc. Mais son nom latin reste Cicer, Arietinum, et c'est peut-être de lui que le philosophe Cicéron doit son nom. On va parler du pois chiche.
Salade de pois chiche et d'épinards. Panade de pois chiche. Poivron à la farine de pois chiche. Pois chiche à la sauce curry. Morue bouillie au pois chiche, alose au pois chiche et au curcuma, garbanzo et chorizo, qidra aux amandes et au pois chiche d'apicius, sabaner bel hummus, payasa au pois chiche et noix de coco, halva au pois chiche et semoule.
Bonjour Farouk Mardambe.
Bonjour.
Cette liste, alors elle est en plus non exhaustive d'un certain nombre de recettes, on vous la doit puisque c'est vous qui nous avez donné l'idée de cette émission consacrée au pois chiche. On la trouve dans votre traité du pois chiche paru aux éditions Sinbad chez Actes Sud, dont vous êtes le directeur de ces éditions et de cette collection Sinbad chez Actes Sud. Bienvenue à vous dans cette émission.
Merci beaucoup.
Pourquoi le pois chiche et pourquoi sous forme de traité ?
À vrai dire, c'était en 97, j'écrivais des chroniques culinaires pour le magazine de l'Institut du Monde Arabe, Kantara. Chroniques qui étaient réunies plus tard sous le titre « La cuisine de Ziryab ». Et c'est là que j'ai rencontré mon complice Robert Bistolfi.
Avec qui vous avez écrit ce traité.
Et nous avons décidé de faire ensemble un livre sur le pois chiche. À vrai dire, on a pensé aux lentilles d'abord. Et puis on a dit non, le pois chiche c'est plus marrant parce qu'il y a beaucoup moins d'histoires qu'on connaît sur le pois chiche.
Et pourtant il y en a beaucoup
d'histoires. Il y a des proverbes, il y a des dictons, etc. Mais on ne connaît pas des histoires, il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas de référence dans les livres saints, etc. Donc on s'est mis au travail et en quelques mois nous avons lu beaucoup de livres. Essayer beaucoup de recettes, pris quelques kilos chacun, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup cuisiné. On a presque essayé toutes les recettes, il y en a une centaine. Et cela a donné donc ce traité du pois chiche. Le titre, au début, m'a été reproché par le patron d'Actes Sud. Les traités de pois chiche, ça fait pas sérieux, etc. J'ai tenu et j'ai bien fait parce que c'est ce qui a fait vendre le livre. En fait.
Vous dites que c'était plus marrant que la lentille, et que c'est aussi pour cette raison que vous avez eu envie de vous intéresser au pois chiche. Est-ce qu'au final, Farouk Mardambe, vous vous êtes effectivement marré en travaillant sur le
oui,
pois chiche ?
Tout à fait. Parce que on a appris beaucoup de choses, quoi. On a appris des histoires. Il y a des superstitions, par exemple, absolument étranges sur le pois chiche. On a appris des choses dans les livres d'érotologie arabe ancien sur le pois chiche comme aphrodisiaque. On n'imaginait pas.
Mais c'est vrai.
On n'imaginait pas. Parce que, vous savez, Sandal a dit, je crois, dans le livre de l'amour, la légumineuse ou le produit de la terre qui est anti-amour, c'est le pois chiche. Bon, mais là, d'après Nafzaoui, par exemple, ce cher tunisien du XIIIe siècle, c'est le contraire. Et d'après Oribaz aussi, un médecin de l'Antiquité. qui a, au contraire, qui a mis l'accent sur... Il a dit que le pastis, c'était comme le levain dans le corps. Donc, on peut imaginer.
Parce que c'est vrai que vous faites remonter cette histoire à très très loin, aux temps homériques. Hein. Elle a une longue histoire, cette légumineuse, le pastis. Qu'est-ce qu'on sait de ses origines?
Mais on a trouvé, vous savez, on a trouvé dans une grotte en France des graines de pois chiches du 7e millénaire avant Jésus-Christ, en France. Alors que nous, chez nous, au Moyen-Orient, on prétend que nous sommes les plus anciens, donc vous pouvez imaginer que nous avons aussi 1000 ans de plus. Bon, et maintenant, je crois que les savants disent que l'origine du pois chiche, le pois chiche cultivé, devait être quelque part entre la Grèce et l'Himalaya.
Alors, vous voyez, ça laisse un certain nombre de pays pouvoir revendiquer la paternité du pois chiche, à tel point, Farouk Mardambe, qu'on parle très régulièrement d'une guerre, non pas du pois chiche, mais du houmous. Oren Rosenfeld en a fait un film qui s'appelle Houmous the Movie. On écoute juste quelques secondes de la bande annonce.
It's houmous. Everyone likes houmous. Houmous, it's magic.
Hummus.
Hummus.
Houmous.
Houmous.
It's delicious.
I think it's made from some kind of peas.
Everybody knows now that chickpeas are actually superfood.
Yum. Not you.
There is a big dispute where it comes from.
Israel? Pakistan?
It's Greek.
I know from the Middle East.
I was the person who started rap culture in Hebrew.
Voilà, il y a une grande dispute, un conflit pour revendiquer la paternité du houmous, notamment 8 pays, en particulier Liban et Israël, qui se battent à coups de procès, de records du plus grand plat du monde. Et si c'était dans votre pays, en Syrie, qu'était né le houmous, ou en tous les cas, qu'on avait découvert le pois chiche? On ne sait pas où il a été découvert, en fait.
Non, mais comme je vous ai dit, il y a un espace très très large.
C'est ça.
Bon, on dit en Orient. Et l'Orient, ça s'étend, en effet, c'est à l'est de la Méditerranée, de l'est de la Méditerranée jusqu'à l'Indus. Et donc, bon, maintenant, les peuples qui mangent le plus de pois chiches sont justement ces peuples-là. Le pois chiche est consommé surtout en Inde et au Pakistan. Ce sont les deux gros producteurs de pois chiches, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et ce qu'on a oublié, c'est qu'il était, le pois chiche était très très populaire au nord de la Méditerranée, en Grèce, en Italie, en France, en Espagne, au Portugal. Et une bonne partie des recettes, nous sommes partagés le travail. Moi, je me suis occupé des recettes du Moyen-Orient, des pays arabes, de l'Iran, de l'Inde, etc. Et c'est Robert qui s'est occupé des recettes européennes.
C'est ça, c'est bien de se partager le travail.
Nous avons été vraiment très, très impressionnés par le nombre de recettes qu'on a trouvées en Italie, en Grèce, et même en France. Surtout avant la découverte de l'Amérique et l'arrivée des haricots. Bon, là, il y a beaucoup de plats qu'on fait maintenant avec des haricots et qu'on faisait avec des pois chiches ou des fèves, qui sont des légumineuses très anciennes autour de la Méditerranée.
Et c'est peut-être par la langue, Farouk Mardambe, par l'exubérance des mots, qu'on voit à quel point le pois chiche a été adopté par des cultures très diverses. Vous le dites très bien dans le traité du pois chiche, il ne s'est pas toujours appelé pois chiche, le pois chiche, et vous donnez une liste interminable de noms donnés au pois chiche selon les régions du monde, qui montre à quel point, effectivement, partout où il est consommé, eh bien, on l'appelle de façon différente. Vous avez un papier sous les yeux,
oui,
justement.
Non, parce que, justement, pour ces mots, là, il y a des mots très marrants, comme le pois bécu, tête de bélier, pois cornu, pois blanc, pois gris, garvance, etc. Et ça, c'est en France. Mais alors, en Italie, il y a des dizaines de noms pour désigner le pois chiche, une dizaine de mots.
Et pourtant, le pois chiche a eu, pendant longtemps, une réputation. Alors certes, on lui prête des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques, vous le rappeliez notamment avec Oribase, mais il a longtemps eu une réputation peu flatteuse, d'aliments frugal, grossier, réservé aux miséreux, très loin d'ailleurs le haricot qui lui a toujours su conserver ses lettres de noblesse. Comment l'expliquer?
C'est comme l'a dit Théophile Gautier, qui nourrissait l'ambition de devenir un haricot. Non, en fait, ça a été lié dans l'histoire, en tout cas en Europe, avec la pénitence. Et on mangeait du pois chiche, justement pendant le carême. Bon, on mangeait surtout pendant la semaine sainte, le mercredi des cendres et surtout le vendredi saint, et aussi début novembre pour le jour des morts et la Toussaint. Maintenant, il y a une exception, c'est qu'on mangeait beaucoup aussi du pois chiche en Italie pour les rameaux, alors que c'est un jour plutôt heureux. Bon, mais cela est lié à une histoire, comme quoi Jésus, avant d'arriver à Jérusalem, est passé dans un champ de pois chiches et sa cape a été mouillée par la rosée de la plante, si bien que on devait manger des pois chiches au rameau et que les maisons où on mange pas des pois chiches au rameau ne sont pas véritablement chrétiennes.
Comme quoi, Farouk Mardembe, il y a plein d'histoires autour du pois chiche. Là, vous dites qu'on mange donc les pois chiches pendant les rameaux en Italie. Eh bien, on fait aussi la même chose à Marseille. Écoutez cette histoire.
À Marseille, le jour des rameaux, il était arrivé une fois un vaisseau rempli de pois chiches et la famine sévissait à Marseille. On a fait une distribution énorme de pois chiches aux Marseillais et à toute la région marseillaise. Et depuis, les Marseillais qui sont reconnaissants et qui ont, dit-on, la reconnaissance du ventre, ont institué cette tradition nouvelle de manger des pois chiches pour le jour des rameaux. Et on dit ici, à Saint-Rémy, où peut-être les pois chiches de Marseille n'étaient pas arrivés parce que nous n'étions pas menacés de famine et que des pois chiches nous en avions, on dit ici que c'est une façon d'éborgner le diable. Alors on en jette quelques-uns avant de les faire cuire par-dessus son épaule gauche et, paraît-il, le diable est éborgné.
Voilà, c'était une archivinade 1970. Vous la connaissiez, cette histoire, Farouk Mardembe?
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que pour les rameaux, on mange gras. Bon, donc c'est pois chiches avec des pieds de cochon. Bon, c'est la tradition italienne. Alors que, bien sûr, pendant le carême, c'est sans viande, mélangé à d'autres céréales ou à d'autres légumineuses.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'aujourd'hui, on constate un regain d'intérêt pour le pois chiche. C'est peut-être même la reine. Non, c'est la reine, ça reste la lentille, peut-être. Enfin, peu importe. En tous les cas, on mange énormément de pois chiches de plus en plus. Et puis, on vante sa teneur en fibres et toutes ses vertus, tous ses mérites. Est-ce que vous avez voulu, avec votre traité du pois chiche, entreprendre de réhabiliter ou de participer à cette réhabilitation du pois chiche?
Bon, c'était, comme vous avez dit, comme c'était un prolétaire et que nous étions tout à fait des gens de gauche, on a voulu voler au secours du pois chiche.
Voilà.
Donc, on l'a fait.
Bon, est-ce que vous aimez ça, vous, le pois chiche?
J'adore. Non, vous savez, il y a maintenant des choses, par exemple le hummus. Le fameux hummus. Bon, c'est devenu quelque chose de, bon, d'abord universel, quelque chose d'universel, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas se mettre à table dans un restaurant à Beyrouth, par exemple, sans qu'on commence par, dans les mésés, qu'il y ait quand même une assiette de hummus. Bon, et à chaque fois que j'ai remarqué des gens qui ne connaissaient pas, qui ont mangé pour la première fois, ben ils devenaient des partisans
du pois chiche.
Oui, tout à fait. Au point qu'on ait un éditeur italien qui rêvait de nager dans une piscine de pois chiche.
Bon, on va laisser passer.
Enfin, de purée de pois chiche.
On va laisser passer la Madeleine par Matteo Caranta, Farouk Mardembe. On parlera de comment on le cuisine, ce pois chiche, juste après.
Un dicton dit « Il est bien pauvre le mas, il est bien pauvre la maison où on ne mange pas de pois chiche pour les rameaux ».
Alors, mon cher Matteo Caranta, vous avez rencontré un réalisateur guatémaltèque.
Oui, Jairo Bustamante, qui vient de sortir l'excellent La Llorona, on disait tout à l'heure, avec lequel il a reçu un prix à la Mostra de Venise l'année dernière. La Llorona, selon la légende maya, c'est un fantôme, une femme qui cherche et pleure ses enfants. Et dans le film, elle poursuit jusque dans leurs rêves la famille d'un ex-dictateur accusé de génocide. Alors, le film explore le thème de la responsabilité des enfants dans le crime de leur père et soulève la question de la place des Indiens au Guatemala, une société où plus de 60% de la population est d'origine maya. Alors moi, j'ai rencontré Jairo Bustamante dans un bistrot parisien, très loin du Guatemala, mais c'est près du four de sa grand-mère qu'il m'a emmené pour sa madeleine.
En fait, ma madeleine, c'est une sorte de vraie madeleine. C'est le pain qu'on fait pour le jour de mort, que ma grand-mère faisait. C'est un pain qui n'est pas forcément sucré. Et après, on fait aussi un pain qui est sucré. Et donc, celui qui n'est pas sucré, on l'offre à tout le monde. Et on s'échange de pain de famille en famille. Et les sucrés, on les garde pour la propre famille. C'est un peu une sorte de dessert. Et celui qu'on offre aux autres, on n'a aucun intérêt. En revanche, celui qu'on garde pour le dessert, il est décoré avec du sucre dessus. La farine est sucrée aussi. Et on le mange trempé dans du café. On ne peut pas le manger s'il n'est pas trempé presque. Je ne sais pas si je serais capable de dissocier le goût de ce pain du goût du café. Parce que je pense que je ne l'ai jamais mangé séparément. Je l'ai toujours mangé trempé. C'est drôle parce que ce n'est pas mon plat préféré. Mais sûrement, je suis capable de le manger tout seul. Parce que c'est quelque chose de trop ancré dans l'enfance et de trop ancré dans les habitudes. Ça a le goût de ces plats qui n'ont aucun intérêt, sauf celui qu'on lui donne dans ses souvenirs. Et comme ma grand-mère le faisait dans un four en terre cuite, ça avait aussi le goût de cette cendre qui sortait du four. Et un peu le goût de terre aussi, à cause du four. C'est une espèce de madeleine beaucoup plus pâteux et beaucoup plus solide. Il n'a pas une très belle forme. Il a... En fait, c'est un espèce de pain rond, tout basique. Il est vraiment tout basique. Et c'est un plat très simple. Ça a le goût de l'humilité aussi. Surtout fait chez soi. Parce que contrairement à ce qu'on devrait penser, le fait de le faire chez soi, ça démontre une classe plus humble. Parce qu'on ne peut pas l'acheter. L'image de la générosité, si elle existait, je la traduirais dans cette ma grand-mère assise par terre en train de masser son pain avec des piles et des piles de pain derrière de celui qui n'était pas sucré qu'elle allait offrir. Et donc il y a une générosité très particulière parce que c'est vraiment les gens prennent énormément de plaisir à se partager ces pains. Et en retour, on reçoit presque la même quantité du pain qu'on ne va jamais manger. Et on ne sait plus après à qui l'offrir. Donc c'est ce jeu de générosité populaire que je trouve très belle.
Merci pour cette parenthèse enchantée, Matteo Quaranta. Nous aussi, finalement, on parle d'un aliment qui a le goût de l'humilité avec Farouk Mardambe. Mais justement, parlons un peu cuisine, si vous le voulez bien, autour du pois chiche. Parce que vous donnez, avec Robert Bistolfi, dans ce traité du pois chiche, une centaine de recettes. Et pourtant, c'est pas si facile à cuisiner, si? Le pois chiche, il faut laisser tremper pendant une douzaine d'heures dans l'eau. Après, il faut le faire cuire pendant 3 heures. Bon, déjà, faut avoir du temps.
Oui. Maintenant, bien sûr, maintenant, surtout depuis quelques années, on trouve en conserve des pois chiches qui sont très corrects. Vraiment, depuis maintenant 2-3 ans.
Pas que ce soit
qui
trop
sont
mou,
dans
hein.
des bocaux en verre. Et qui sont assez cuits. Parce que dans le temps, ils n'étaient pas suffisamment cuits. Là, ils sont assez cuits. Si on les lave, on les rince, etc., ça peut aller. Mais bien sûr, il faut le faire soi-même. Il faut laisser tremper. Il faut prendre son temps, comme pour toutes les bonnes choses. Et puis, il faut... Bon, on peut laisser bouillir si on met un peu de bicarbonate de soude. Ça va un peu plus vite. Et ça permet de dissoudre aussi la peau du pois chiche, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'éplucher, de passer tout ce temps. Ça fait dissoudre la peau et on peut passer tout de suite de faire une purée ou de cuisiner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a maintenant une bonne partie de ces recettes faites avec de la farine de pois chiche. Bon, surtout les desserts, parce qu'on a toute une liste de desserts, et surtout des desserts à l'indienne. Quoi. Et la cuisine indienne au pois chiche utilise surtout la farine de pois chiche, de même que les Iraniens. Là, plutôt en Afrique du Nord et au Proche-Orient, on utilise le pois chiche entier. Et alors, aussi bien en salade, en soupe, on fait des galettes, on fait le par exemple les fameux falafels. Bon, en Égypte, on les fait avec des fèves, mais en Syrie, au Liban, on les fait avec un mélange de fèves et de pois chiches, etc., etc. Puis, il y a toutes les recettes qui sont avec du poisson, avec des abats, avec de la viande de mouton ou de cochon pour les pays d'Europe méditerranéenne, etc.
Et vous savez, Farouk Mardambe, les grands chefs s'y mettent. On les fait à la maison, on peut les faire dans les restaurants, on peut faire des pois chiches dans les grands restaurants. Et nous sommes justement en ligne avec un grand chef cuisinier, qui est un cuisinier 3 étoiles au guide Michelin, à l'hôtel du Castellet dans le Var, et qui, je crois, je ne veux pas vous mettre la pression, Farouk Mardambe, mais qui, je crois, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Bonjour, Christophe Bacquier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ligne ce midi. Vous entendiez ce que disait donc Farouk Mardambé à propos de toutes ces façons de cuisiner le pois chiche. J'ai presque envie de vous envoyer son traité du pois chiche.
Oui, j'ai écouté avec attention.
Et je le ferai avec plaisir.
Je suis assez d'accord sur ce formidable ingrédient qu'on peut travailler de toutes les manières possibles et inimaginables. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un produit effectivement qu'on peut laisser tremper. Et qu'il faut laisser tremper, je l'ai entendu, mais ça prend pas de temps si on le met à tremper le soir et la nuit pendant qu'on dort. Ça peut tremper pendant 12 heures sans qu'on y prête attention. Et ensuite, le lendemain, le cuire. Et pendant qu'on le cuit, on peut faire autre chose. Je pense que c'est un produit qu'on peut utiliser assez facilement et qui est abordable déjà par tous et qui peut apporter beaucoup de saveur et beaucoup auquel on peut apporter aussi quelques ingrédients qui peuvent le rendre juste magique. Voilà.
Vous avez des pois chiches qui viennent d'un petit village du Var, qui est un haut lieu de la production de pois chiches, qui est le village de Rougier.
Exactement, on travaille avec le pois chiche de Rougier, premièrement parce qu'on a une réelle volonté aujourd'hui, et ça fait déjà quelques années, mais de travailler avec des producteurs qui nous entourent. L'avenir de notre cuisine passe par là, premièrement. Deuxièmement, effectivement, c'est un village dans lequel le pois chiche est cultivé depuis très longtemps, de par sa terre, de par ce régime un petit peu dur qu'il faut au pois chiche pour être travaillé dans de bonnes conditions. Et puis voilà, donc on travaille avec ces gens-là et on a un produit qui est exceptionnel. La qualité du pois chiche, pour réaliser une belle recette, comme tous les produits, est très importante.
Et votre pois chiche a une place de choix dans votre cuisine, puisque je crois que vous faites une cuisine méditerranéenne. En particulier, Christophe Bacquier, vous proposez une salade de pois chiche que tout un chacun peut faire chez soi.
Alors, tout à chacun, peut-être sur une base, oui, je serais tenté de vous dire que nous, aujourd'hui, notre volonté est de décliner le pois chiche. C'est-à-dire qu'on va le présenter entier. On va utiliser aussi la peau. Vous voyez, on va éplucher les pois chiches. J'entendais tout à l'heure que c'était, effectivement, on va éplucher les pois chiches. Alors, ça prend un peu de temps. On épluche les pois chiches, on fait sécher la peau et ensuite on la fait frire. Ce qui amène un croustillant à la recette. En dehors de ça, c'est un produit qu'on peut assaisonner avec du citron, avec de la coriandre. Moi, j'aime bien le marier avec l'huile de colza, ça marche très bien. Voilà un petit peu des pistes qui peuvent marcher. Le poisson marche remarquablement bien avec le pois chiche quand on l'a transformé en purée. Vous voyez, on peut y rajouter dessus une petite sautée de calamar. On peut faire plein de choses avec le pois chiche.
Oui, c'est exactement ce qu'on trouve dans le traité du pois chiche. Et puis, vous nous donnerez l'adresse de l'hôtel du Castellet dans le Var, hein, Christophe Bacquier. Comme ça, Farouk Mardambé se fera un plaisir, je crois, de vous envoyer son livre et que ça puisse vous inspirer d'autres recettes éventuellement. Merci beaucoup, Christophe Bacquier, d'avoir été avec nous par téléphone ce midi.
Merci à vous.
Et merci à vous, Farouk Mardambé. On se reporte donc à ce traité du pois chiche que vous avez coécrit avec Robert Bistolfi. La cuisine de Ziryab est également disponible par vous aux éditions Sinbad Actes Sud. Et puis je tiens à signaler à nos auditeurs que le 29 février, puis d'ailleurs à vous aussi Farouk Mardambé, le 29 février aura lieu à l'Institut du Monde Arabe à Paris un banquet gustatif et artistique autour du pois chiche dans le cadre du festival Arabofolie. Voilà donc qui est pour vous. Vous restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau. On ne change pas complètement de sujet.
Avec plaisir.
Pierre Gropot, donc, après la revanche du pois chiche, voici donc le comeback des graines à l'ancienne.
Absolument, Caroline. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué depuis quelques années comment les graines de chia ou le quinoa ont conquis les quartiers d'affaires et les artères commerciales. Ils sont bio, sans gluten, distribués par toutes sortes d'enseignes logotées comme des bouteilles de lessive. Ce sont un petit peu les nouvelles chippies de la pause déj. Vous voyez les longues files d'employés qui attendent, à la fois hébétés et pressés, de repartir avec un bol, que dis-je, un bowl, B-O-W-L, plein de précieuses graines censées non seulement les rassasier, mais aussi sauver leur santé, rien que ça. Une dame pleine de bon sens a un jour lâché « on n'est pas des canaris ». C'est vrai que ce n'est pas de la cuisine, mais plutôt de l'assemblage standardisé. On ne sait pas d'où viennent les ingrédients, ni vraiment qui les a cuisinés. On attend d'ailleurs encore le commissaire Maigret de ses pauses déjeuner-là. Et puis un jour, près du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, j'ai découvert un restaurant végétarien, tendance macro-bio, voire même végétalien.
Je croyais que c'était pas du tout votre genre.
Effectivement, mais c'était une adresse un petit peu à l'écart, avec le charme des militants, un quelque chose de presque zadiste, mais zadiste branché. On y mange des super aliments et des légumes sauce spiruline préparés sur place. Est-ce que c'est beau ? Honnêtement, non. Est-ce que c'est bon ? Carrément. J'ai parlé riz, haricots et lentilles avec une voisine qui savait tout sur ces associations de céréales et de légumineuses qui nourrissent l'humanité depuis des milliers d'années. La semoule et le pois chiche dont nous parlions en Afrique du Nord, le riz et les haricots en Asie, le maïs et les haricots en Amérique du Sud, ou encore la roborative pasta et fagioli de nos amis transalpins. Ça a été pour moi une sorte de révélation, voire même une épiphanie. La graine, la vraie, la vieille, austère, s'était soudainement révélée. Et je me suis du coup souvenu d'une boutique qui, il y a une vingtaine d'années, existait encore du côté de la rue des Abbesses, dans le quartier du Sacré-Cœur. C'était une boutique magnifique, tenue par deux petits vieux, qui étaient eux-mêmes ratatinés comme des haricots secs. Et c'était le paradis de la graine. On y trouvait de tout. Fèves, riz, pois cassés, lentilles vertes du Puy, haricots tarbais, mojettes vendéennes. C'est une adresse qui pratiquait aussi le vrac avant l'heure. Et la vieille dame n'était pas avare de conseils. Sur les temps de trempage, la feuille de laurier ou la carotte à rajouter dans la casserole, voire même ses cuissons à commencer systématiquement à froid et dans de l'eau non salée. Aujourd'hui, on s'y précipiterait, mais les deux petits vieux étaient en avance sur leur temps et la boutique a fermé, remplacée par une énième enseigne de prêt-à-porter. Après le restaurant du canal Saint-Martin, j'ai retrouvé ici et là des salades de lentilles toutes simples, qui sont parfois couronnées dans leur version luxe de trois brins de ciboulette et d'un œuf mollet. Venu de sa Bretagne Nord, le coco de Paimpol fait encore les délices de quelques tables étoilées. Et puis un jour, au supermarché du coin, j'ai vu un couple de petits jeunes qui demandaient où se trouvaient les lentilles vertes du Puy, en appellation AOC. J'ai repensé à mes petits vieux de la rue des Abbesses, et je me suis dit que loin des mangeoires du midi et des fast-foods autoproclamés healthy, la revanche de la vieille graine avait enfin sonné.
Merci Pierre Gropot, c'était merci votre chronique, chronique de Pierre Gropot du magazine Vanity Fair. Juste pour terminer cette émission, je voudrais rendre un hommage appuyé à un homme dont on a appris la mort cette semaine, un bon vivant, fin gourmet, inventeur du concept de bistronomie, qui se disait volontiers pédago du goût, qui connaissait tout sur tout de la cuisine, qui avait une plume et une verve fabuleuses, et qui avait récemment ouvert son propre restaurant, mi-bistrot, mi-épicerie, ultra convivial dans le 10e arrondissement à Paris, rêve assouvi de jeunesse. Son intransigeance et son caractère bien trempé n'avaient d'égal que son exigence et son talent, et il faisait partie de son charme. Sébastien Demorand est mort beaucoup trop jeune, à 50 ans. Une pensée toute particulière pour sa mère Jacqueline, sa sœur Cathy et son frère, mon ami toujours Nicolas. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulin, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Olivier Arnay, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann. Bon dimanche à tous.